7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. La parole est aux voisines du continent africain, aujourd'hui au Forum des femmes à Marrakech, Women in Africa. Les Américains ont inventé un mot pour parler de ces femmes qui servent de modèle aux jeunes générations et à tout un continent, des femmes inspirantes. Bonjour Evelyne Tal.
Bonjour Emmanuel.
Vous acceptez cette expression pour vous-même, inspirante ?
Absolument. Pour moi, il a toujours été important de donner l'exemple. Et j'étais très consciente, surtout dans le domaine dans lequel j'évoluais, le domaine de la finance, qui est toujours dominé par les hommes, surtout au plus haut niveau décisionnel. J'étais consciente d'avoir un regard de ces jeunes femmes et qui se disaient, va-t-elle y arriver ? Qui analysaient les difficultés.
Une pression.
Je vais dire plutôt une responsabilité.
Une héroïne de la finance, vous êtes en tout cas en Afrique, hein, avec vos 20 dernières années pratiquement passées à Ecobank, la plus grande banque panafricaine, où vous avez terminé numéro 2 du groupe, et surtout longtemps la seule femme dans ce monde d'hommes, vous le disiez. Presque 40 ans de carrière dans la banque en Afrique, enfin 36 ans, hein, c'est ça ?
36 ans et 7 mois.
Vous avez bien compté, autant dire que vous avez connu le Far West de la banque sur le continent à ses débuts, sur un continent, faut-il le rappeler, le plus faiblement encore bancarisé au monde et qui a révolutionné aussi le cash avec le paiement par téléphone mobile il y a près de 10 ans. Vous avez finalement traversé ces époques, parcouru tout le continent aussi à travers vos voyages d'affaires. En fin d'émission, on donnera aussi la parole à un symbole, cette fois-ci de la toute jeune génération, Zuriel, 15 ans, adolescente américaine, de père nigérian, de mère mauricienne. Elle réalise, tenez-vous, des documentaires pour sensibiliser le monde aux problèmes de l'éducation des filles en Afrique depuis l'âge de 9 ans. Zuriel, africaine-américaine, signe aussi la fin de l'insouciance, une génération très concernée par les 7 milliards de voisins. Et puis bien sûr, vous retrouvez les voisines et les voisins, nos invités, femmes inspirantes et inspirées, en vidéo sur notre page Facebook sur RFI.fr et bien sûr tous les réseaux sociaux.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Evelyne Tal, vous parlez rarement à la presse. On vous décrit tantôt timide, tantôt aride, discrète, rigoureuse, très attachée à l'éthique. Qu'est-ce que vous retenez dans tout ça ?
Je prends tout. Aride, c'est un peu dur, mais je prends tout. Mais c'est l'image peut-être que je projette.
Rigoureuse. Alors.
Rigoureuse. J'ai toujours pensé très tôt que quelles que soient les difficultés, votre rigueur, votre expertise, mais également votre haut sens de l'éthique, vous projetterez très certainement vers le succès. Mais lorsqu'on parle de rigueur, il ne s'agit pas de rigueur d'un jour, de 24 heures. Quand j'étais plus jeune, je me disais 50 ans, oh, c'est loin, mais ce n'est pas si loin que ça. Donc il faut tenir dans la distance pour pouvoir se maintenir à ce niveau, progresser, mais également, comme vous l'avez dit, servir d'exemple aux jeunes qui sont là, qui ont des peurs, qui se posent des questions, qui ont un plafond de verre qu'elles se mettent elles-mêmes ou que la société leur met. Et pour moi, il était très important que tout ce que je réalise se fasse dans des conditions d'éthique, dans des conditions de rigueur et qu'on produise surtout des résultats.
Alors, vous avez parlé de peur. Vous avez démarré tout de même un parcours atypique. Licence d'anglais à l'UCAD, l'Université Charanta Diop de Dakar, pour arriver au poste de banquière la plus puissante d'Afrique. Vous n'êtes pas passé par les campus américains où généralement les Africaines de bonne famille découvrent la foi en leur destin, ce qu'on appelle le leadership. Comment vous vous êtes construit finalement, vous Evelyne Tal ?
C'est un parcours atypique, c'est vrai. Mais j'ai été élevée par des parents qui sont des éducateurs. Mon père et ma mère ont formé des générations de Sénégalais.
Vous êtes la fille de l'écrivain sénégalais Chérif Tal.
Absolument. Merci de faire référence à mon père et j'en profite pour lui rendre un hommage. J'ai toujours un peu d'émotion lorsque je parle de lui. Mais nous avons été éduqués à la maison avec... il n'y a pas de limite pour vous. C'est vous-même qui vous mettrez vos limites et il faut dire que dans les choix d'éducation, ni mon père ni ma mère ne faisaient la distinction entre mes frères et nous, les filles. Il y avait peut-être un peu de distinction quand il s'agissait de tâches ménagères, parce que je ne pense pas que mon frère sache tricoter ou crocheter, ce que je fais très très bien.
Donc, mais cette distinction n'était pas un frein en soi en termes de projection sur l'avenir.
Absolument pas. Alors, j'ai fait une licence d'anglais et mes parents nous disaient toujours il faut arriver à l'excellence. Et ce que j'entendais, j'ai entendu depuis que je suis jeune, même si ton travail, c'est de balayer la rue, fasse en sorte que tu sois le meilleur balayeur.
Mais alors, vous avez grandi quand même, surtout au milieu des livres.
Au milieu des livres, au milieu de la littérature, à une époque de Senghor. Alors, c'est juste le hasard de l'histoire. Et je crois également que mon cerveau pouvait absorber beaucoup de choses. Donc, très, très humblement, lorsque j'ai fait ma licence, je me suis classée parmi les premiers à l'université de Dakar. Et à l'époque,
Vous dites bien parmi les premiers.
Oui.
Parce qu'il y avait beaucoup moins de filles à l'UQAD à l'époque.
Absolument, absolument. Et donc, à l'époque, la France donnait des bourses d'excellence par le Fonds d'aide et de la coopération. Et j'ai eu une bourse. Et je devais aller faire une école d'interprétariat en France. Mais les procédures administratives dans mon pays ont fait que j'ai raté le concours. J'ai pris l'avion, je suis arrivée en France, j'ai raté le concours. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On écrivait une lettre, ça prenait un mois pour que papa et maman sachent qu'il n'y avait pas d'autres écoles. Mais on était prise en charge, puisque c'était des bourses d'excellence. Et pendant 24 heures, on m'a expliqué le nombre d'écoles qu'il y avait. Et je leur ai dit, mais il y a une école d'administration et de gestion, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, il y a de la comptabilité, j'avais aucune idée de ce que c'était.
Mais c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Comment vous vous êtes retrouvée dans le monde aride de la banque en venant de la littérature familiale?
Je pense que j'avais une prédisposition pour la finance sans jamais la connaître. Une fois que j'étais dans l'école, j'ai beaucoup travaillé. Et comme nous avions une bourse d'excellence, nous étions suivis tous les mois. Et on avait un soutien, donc j'ai beaucoup travaillé. Je pense que ce n'est pas une question d'intelligence, je suis peut-être besogneuse.
La bonne élève qui ne choisit pas, mais réussit tout.
Voilà, je pense que c'est juste cela, c'est le hasard de l'histoire. Alors, j'ai tellement réussi à l'école que lorsque je suis revenue au Sénégal, l'école m'a renouvelé la bourse pour aller faire l'école d'interprétariat. Vous vous rappelez que j'avais raté au début, puisque j'étais arrivée trop tard pour le concours. Et là, pour des raisons familiales, j'ai décidé de rester au Sénégal travailler. Et l'offre que j'ai eue, c'est l'offre Citibank. Et Citibank, je crois, a vu toutes les prédispositions qu'il y avait.
Banque anglo-saxonne,
donc. Voilà, absolument. Et qui se préoccupait plus du résultat, peut-être, que de tout le background, et m'a vraiment, vraiment formée. Donc, cette première partie de ma vie en banque, c'était une formation à un très, très haut niveau. Je crois qu'ils avaient détecté le potentiel que j'avais.
Comment vous avez vécu, tout au long de votre carrière, la solitude en tant que femme? Vous avez vécu, d'ailleurs, dans plusieurs pays du continent.
Oui. J'ai vécu dans plusieurs pays du continent, mais c'est l'occasion pour moi de dire que partout je me suis sentie chez moi. Partout en Afrique, vous avez des millions de jeunes qui ont l'espoir de demain. Et moi, dans la banque, ce que je voulais, c'est contribuer humblement à pouvoir, à travers la banque, changer la vie de millions de personnes, que ce soit les clients, que ce soit le personnel que nous recrutions et que nous formions. Il y a de la solitude d'abord dans le pouvoir, puisque lorsque je suis allée à Ecobank, j'ai progressé très rapidement. Donc, je crois que toutes les personnes au pouvoir...
Donc, plus vous mentiez, plus vous étiez seule.
Absolument.
D'autant plus parce que vous étiez une femme, ou pas?
Oui. Oui. Et en réalité, je n'avais pas de modèle dans la profession. Je n'ai jamais pu...
Pas de mentor, pas homme.
Je n'ai jamais pu en trouver. Je crois que les hommes ne s'approchaient pas de moi pour me coacher, servir de mentor, bien que, je le répéterai toujours, les décisions de me recruter et de me faire progresser étaient signées par des hommes. Donc ça prouve finalement...
Une confiance en vous, mais pas de mentor.
Une confiance dans les résultats que j'amenais, une conscience dans la valeur ajoutée que je posais sur la table, dans l'expertise qui était en train de se former et de s'affiner, oui, mais pas de mentor. Et cela m'a beaucoup marqué. Ça fait partie de souvenirs difficiles, on va dire.
Vous avez fait sauter tous les verrous des plafonds de verre, sauf le dernier, pour devenir numéro un. Vous n'avez pas fait sauter la banque, donc.
Voyez-vous, je crois que rien n'arrive par hasard. J'ai quitté la banque numéro 2. Mais en toute humilité, je peux dire que je suis très fière d'avoir occupé le poste le plus important jamais occupé par une femme dans notre institution et également à l'intérieur du système bancaire. J'ai supervisé 33 pays. J'ai fait face à 21 régulateurs, 33 systèmes fiscaux différents, 19 lois des affaires différentes, plusieurs langues. Et j'ai sillonné le continent entre le Cap-Vert et l'Éthiopie sans me poser de questions. Tout ce que je me disais, c'est que je contribuais à construire un champion panafricain et que je contribuais très humblement à construire l'Afrique.
Aujourd'hui, en tout cas, vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui attend les jeunes générations de femmes entrepreneuses. On va en discuter avec vous, Evelyne Tal, vous êtes notre invitée, ex-banquière. Je vous offre Beautiful Tango, Indiza.
Beautiful Tango, take me by the hand. Beautiful Tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. Running and we can lose. Baby, come and dance. We gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger.
Evelyne Tal, ex numéro 2 d'Ecobank, vous nous avez raconté votre parcours, la solitude du pouvoir, la solitude aussi en tant que femme, la façon dont vous avez gravi les échelons en réussissant tout et en inspirant la confiance des hommes, sans avoir pour autant de mentor, c'est ce que vous nous disiez, Evelyne Tal. La question de l'héritage culturel, de l'héritage social, vous êtes donc la fille d'un écrivain, Sherif Tal, vous en parliez. Est-ce que ça a compensé le handicap d'être une femme dans un monde d'hommes, d'être la fille de quelqu'un d'important?
D'abord, je n'ai pas tout réussi. J'ai fait certainement des erreurs. J'ai fait de mon mieux et j'ai donné le maximum de moi-même sans me fixer de limites. Mon père était quelqu'un de connu dans le milieu enseignant, mais je ne vais pas dire important. C'était une personne assez humble, mais c'était une très forte personnalité. La manière dont mon père m'a considérée dans la maison, la manière dont nous avons été éduqués. Par exemple, moi j'ai toujours su, je suis fille aînée, qu'une fille aînée, j'ai un grand frère, il a ses responsabilités, mais j'ai mes responsabilités, architecte, mais j'ai mes responsabilités. Deuxièmement, mon frère a quitté tôt la maison. Il était un élève brillant et même doué, et il était au Prytanée militaire de Saint-Louis. Il est parti quand il avait 13 ans. Donc, comme il aime le dire lui-même, il m'a transféré certaines responsabilités que j'ai prises très tôt, sans me poser de questions, dans une famille nombreuse. C'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, j'accepte, oui, l'héritage culturel, et également l'empreinte et l'éducation que mes parents m'ont donnée.
Au début de l'émission, je vous ai dit que vous avez presque connu le Far West pour la banque en Afrique. Est-ce que c'est un mot qui vous choque ou pas? Et est-ce que vous pourriez nous raconter cette notion de Far West pour le grand public que nous sommes, qui ne connaissons pas la banque de l'intérieur? Qu'est-ce que ça voulait dire en fait?
En réalité, pour moi, l'Afrique présentait et présente toujours des opportunités. Donc, il y avait certaines banques qui étaient là depuis longtemps, des banques étrangères, les banques françaises du côté francophone et quelques banques locales. Mais le besoin était tel qu'il y a eu de la place pour des banques comme celle dans laquelle j'ai travaillé et qui disaient « moi, je suis régionale et je suis transnationale » et qui avaient très vite compris qu'il valait mieux évoluer dans les grands ensembles qu'avoir une stratégie d'un seul pays. Et je pense que la concurrence est saine. Les clients, lorsqu'ils voient qu'il y a 10 banques dans la même rue, ont le choix et vous forcent à vous dépasser et à leur amener des produits de plus en plus compétitifs. N'oublions pas que ces clients sont à 5 heures de Paris, sont à 6 heures de l'Allemagne, sont à peine 8 heures des États-Unis. Donc le monde était global.
Pour les particuliers africains.
Voilà. Et donc le monde est global et vous êtes obligés de donner des services de qualité. Donc, pour moi, cette prolifération de banques, en termes de concurrence, était quelque chose de sain. Ce que je déplore, c'est, malgré la prolifération de banques, qu'il y ait toujours un taux de bancarisation faible, bien qu'il se soit accéléré ces dernières années.
20% aujourd'hui ?
20% environ.
Mais si on compte l'Afrique du Sud dedans ou pas ?
Je pense, sans l'Afrique du oui. Sud, on enlève
en
également
RDC,
un pays,
on est à 6%,
un hein. pays comme le Cap-Vert, qui est vraiment un taux très élevé, vous seriez étonné. Et c'est le problème de la bancarisation et qui a laissé de la place à d'autres systèmes de paiement, donc le mobile, etc., à cause du taux d'adaptation. Mais le véritable problème, c'est que les clients nous ont toujours dit à nos banques, vous ne nous financez pas assez. Non seulement
dire, hein.
nous ne collectons pas assez d'épargne, mais nous ne finançons pas assez. Alors,
les créations de petites entreprises, de start-up, PME, tout
Surtout
ce qui fait la vitalité de l'économie africaine.
En fait, toutes les expériences de croissance expérimentées ont été soutenues par le secteur privé. Et en Afrique, le secteur privé, c'est largement les PME, les PMI et le secteur informel. Alors, les grandes sociétés trouvent réponse de la banque. Et moi, je pourrais prendre la casquette de banquier, vous donner des statistiques et vous expliquer qu'il y a des pourcentages sur le total bilan des banques qui prouvent que les banques financent les PME, les PMI. Mais,
ouais.
mais je préfère prendre...
Vous conservez malgré vous cette casquette.
Mais,
hein,
mais
vous ne pouvez pas
prends,
vous empêcher
même,
de défendre la banque,
absolument,
le bilan de la banque
que,
en général.
Parce que c'est là où mon expertise
Tous les jeunes
est...
vous accusent tous, vous, les banquiers, les banquières, de ne pas financer, de ne pas prêter,
mais nous aurions
d'être frileux parmi les plus frileux.
Nous aurions tort de ne pas les écouter. Nous aurions tort de juste leur dire nous finançons les PME, les PMI, nous finançons les start-up. Moi, je voudrais prendre le problème autrement et de dire qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils nous disent en réalité, vous ne nous financez pas de manière adéquate. Nous avons besoin de financement de haut de bilan. Nous avons besoin de financement d'investissement. Et quelquefois, ils viennent nous dire de financer des choses qui devraient être financées par leurs fonds propres. D'accord ? Ils nous disent « votre taux est cher ». Ce que nous devrions faire, nous les acteurs de la finance, donc je dépasse les banques, c'est de voir comment réorganiser le financement des PME, des PMI et comment adresser leurs problèmes et créer des champions nationaux et des champions régionaux.
On va en parler en deuxième partie d'émission avec vous, Evelyne Tal. Vous avez parlé de votre parcours personnel, on y reviendra. Pourquoi vous avez eu envie de reprendre votre liberté pour entreprendre vous-même. Mais juste une petite parenthèse avant qu'on rende l'antenne pour le flash. Comment vous avez vécu, en quelques mots, l'arrivée du paiement par téléphone mobile au Kenya il y a une dizaine d'années?
Écoutez, pour
avec
moi...
Avec des frissons?
Pas du tout. Mon rêve, lorsque j'ai choisi de travailler dans la banque, c'était de faire la différence pour les Africains et pour l'Afrique. J'avais le choix de m'installer partout dans le monde. Lorsque ce paiement mobile, qui est favorisé par une réglementation qui était incitative au Kenya, arrive à bancariser ou à canaliser des flux qui n'étaient pas dans un secteur formalisé, je dis que c'est tant mieux. Ça aide à construire de l'historique. Ça aide à avoir des données. Ça met les clients en face de la banque. La question que je me suis souvent posée, c'est où sont les jeunes? Je donne toujours cet exemple de ma fille qui a quitté Dakar après le bac, qui est allée en France et qui est revenue et m'a dit « Maman, tu es dans la banque. Et où est-ce que tu penses ta responsabilité ?» Et j'ai dit « Par rapport à quoi ?» Elle me dit « Aucun de mes copains que j'ai laissés et qui sont à la fac, non de compte bancaire. Alors que toi-même, tu m'as accompagnée et en France, je ne pouvais pas fonctionner sans compte. » Et c'est là que nous avons lancé à l'époque l'initiative d'ouvrir des comptes aux jeunes dans les universités. Et cette initiative continue à moindre coût, un compte adapté avec une carte, etc.
Comme quoi, il faut écouter ses enfants dans le
Absolument.
Business. Hein. Vous restez avec nous, Evelyne Tal. Vous avez beaucoup de projets, notamment pour les femmes dirigeantes. Vous avez décidé de mettre vos compétences à leur service. Vous venez tout juste de fêter vos 59 ans. Il y a quelques jours, autant dire une deuxième vie qui commence. Nous rendons l'antenne pour le flash, mais nous revenons dans 3 minutes. 7 milliards de voisins, restez avec nous en compagnie d'Evelyne Tal.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins et de voisines, portraits, parcours et conseils d'une femme inspirante à une jeune génération de femmes en Afrique. Evelyne Tall, ex-banquière parmi les plus puissantes du continent, vous avez souvent déclaré ne pas avoir vraiment choisi votre vie. Vous avez accompli en tout cas un chemin en solitaire, vous dites souvent que vous n'avez pas eu de mentor. Aujourd'hui, les femmes dirigeantes en Afrique ont-elles davantage le vent pour elles par rapport à ce que vous avez connu ?
Oui, si les femmes qui sont arrivées au plus haut niveau décisionnel de ma génération ont un sens de responsabilité. Il est de notre responsabilité de pouvoir aider ces femmes, de pouvoir les aider à répondre à leurs questions, à rester femmes, mais à aspirer au plus haut niveau.
Vous dites à rester femme, est-ce que pour vous ça a été difficile en termes de vie privée ? Puisqu'à la banque, on n'est pas censé vraiment avoir un sexe.
Voyez-vous, j'ai mieux. Une des difficultés que j'ai eues dans ma vie, c'est que j'ai fait le choix, très tôt, de poursuivre ma carrière et de n'avoir aucune limite en termes de progression professionnelle. Mais dans le même temps, j'ai toujours refusé de sacrifier l'autre Evelyne. Je me serais sentie incomplète si je n'avais que poursuivi la carrière professionnelle. Cela a posé la question de la double performance, la performance au bureau et la performance ailleurs. Ailleurs, c'est où ? J'ai toujours dit que je souhaitais être une bonne fille pour mon papa et ma maman, une sœur à part entière. Une amie, mes amies sont importantes pour moi. Une bonne mère, une bonne épouse et une bonne citoyenne.
Mais ça n'a pas été si simple dans les faits.
C'est pas simple du tout.
Vous l'avez dit dans cette même émission il y a plusieurs années d'ailleurs.
Oui, et j'ai dû faire, et c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que je ne me sentirais pas complète si j'avais fait le choix d'une de ses vies contre l'autre, tout en sachant que je ne suis pas Wonder Woman. Le plus difficile n'a pas été pour moi cette double performance, mais le plus difficile a été le sacrifice des deux personnes les plus importantes pour moi qui m'ont soutenue, de deux petites filles qui m'ont suivie dans mon aventure panafricaine. Et j'avais beau leur dire, je suis dans une banque et notre ambition est de contribuer à construire l'Afrique, l'intégration est importante. Ces filles n'avaient pas leur moment à midi, n'avaient pas leur moment le soir. Et surtout au début de ma carrière à EcoBank, le week-end c'était le dimanche après-midi. Et je me disais, même si nous passons peu de temps ensemble, que ce soit de la qualité. Mais ça, c'est mon point de vue. Un enfant a besoin de quantité et de qualité. Et donc, je remercie Dieu qu'elles ont grandi, ces deux jeunes femmes absolument épanouies aujourd'hui. J'espère leur servir de mentor et de coach, comme je coach beaucoup de femmes. Mais le plus dur n'est pas ma vie à moi, c'est le sacrifice de ces deux personnes et puis d'autres personnes. Parce que, en réalité, le succès individuel n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est la somme des efforts que plusieurs personnes font en même temps. Donc je ne veux pas oublier ma famille, je ne veux pas oublier mes amis. Mais je voudrais surtout dire qu'il y a quelquefois des décisions difficiles à prendre.
Alors comment vous comptez aujourd'hui transformer vos convictions sur la réussite professionnelle des femmes en action ? Est-ce que vous pensez que l'époque aujourd'hui va permettre davantage aux femmes de réaliser les deux réussites, de conjuguer cette harmonie-là ? Et comment vous, en tant qu'ancienne, vous comptez les soutenir ?
Écoutez, moi je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Toutes les statistiques le montrent. On parle de potentiel des femmes en Afrique. Mais aujourd'hui, dans les conseils d'administration, dans certains secteurs, vous n'avez toujours pas de femmes. Que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde.
En Europe, il y a une loi maintenant pour les conseils d'administration.
Il y a des quotas dans certains pays. Mais si on peut parler rapidement des quotas. Moi, je vais prendre l'exemple de la Norvège qui a instauré les quotas en 2008, qui a le plus fort taux de représentation de femmes dans le conseil d'administration. Mais en Suède, il n'y a pas eu de quotas. Ils sont deuxièmes par rapport à la Norvège. Je pense que c'est une question de prise de conscience collective. C'est une question de débat public. Mais revenons en Afrique.
Alors au Sénégal, on a plus de 40% de femmes au Parlement.
Absolument.
Grâce à des quotas.
Absolument.
Il faudrait la même chose pour les conseils d'administration.
Les quotas aident. Les quotas aident les femmes à être là. Aident à ce que culturellement, on soit habitué à nous voir au plus haut sommet de la décision.
Vous savez qu'il y a aussi des hommes qui disent que les quotas montrent l'incompétence des femmes.
Moi, je pense que là où ils auraient raison, c'est que les quotas profitent à des femmes qui ne sont pas compétentes. Et là, cela bouleverserait totalement mon modèle de vie, où tout ce que je me disais, c'est que quels que soient les défis, malgré la solitude, tout ce qui te protégera, Evelyne, c'est ta capacité à délivrer des résultats. Tout ce qui te protégera, c'est ton éthique, que tu sois irréprochable. Tout ce qui te protégera, c'est ta rigueur. Donc, j'aimerais que ces quotas existent, mais qu'ils soient bien remplis.
Ça, c'est votre foi, votre religion, pratiquement,
oui,
hein,
oui.
On peut dire.
Oui.
Alors, le concept que vous avez envie de mettre en œuvre à l'heure actuelle,
oui,
vous pouvez nous en parler ?
Oui. Alors, le prolongement naturel de ma carrière ne peut se faire que là où j'ai de l'expertise, c'est-à-dire dans la finance et dans la gouvernance. Bien que j'ai fait du mentoring quand j'étais à la banque, que j'ai pu inspirer des femmes hors de la banque même, et ça m'émeut toujours lorsqu'elles m'arrêtent dans la rue ou qu'elles m'envoient des mails pour me dire « je vous ai suivi, j'ai entendu telle et telle chose, ça m'a inspirée », j'ai pas eu de temps de redonner autant que je voulais redonner aux femmes. C'est une question de responsabilité. Maintenant, je suis africaine. Je fais le constat qu'en Afrique, la croissance, bien qu'on ait certains pays qui ont des taux de croissance tout à fait honorables, hein, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie, la croissance n'est pas inclusive. Et pour moi, la croissance n'est pas pérenne. Deuxième constat que je fais, on en a parlé tout à l'heure, le tissu économique est largement constitué de PME-PMI en Afrique. Et le secteur privé est présent, mais est-il puissant ou non? Troisième constat, 50% des cerveaux et intelligences restent toujours du potentiel en Afrique, les femmes. On ne les utilise pas assez. Et ces femmes sont dans des positions exécutives comme celles que j'ai occupées, mais je vais porter mon regard sur les femmes chefs d'entreprise. Et je souhaiterais mettre mon expertise au service de ces femmes. Et je ne voudrais surtout pas que mon carnet d'adresse reste dans un tiroir. Je veux mettre mon carnet d'adresse à leur disposition.
Et alors concrètement, vous allez être une coach de plus ?
Je serai une coach de plus, j'irai un peu plus loin. Le projet immédiat, qui est une urgence pour moi et un devoir sociétal, c'est d'aller dans ce que j'appelle la finance utile.
Donc vous voulez monter un fonds d'investissement pour des femmes entrepreneuses ?
Il y aura une forme qui va être défini
là,
bientôt.
Là, vous écoute, là. Hein.
Qui va être défini bientôt. Mais l'objectif que j'ai, c'est de pouvoir, avec l'expertise que j'ai et avec la gouvernance que je mets toujours en avant, détecter ces femmes qui ont un fort potentiel pour devenir des champions et qui ne le deviennent pas.
Mais qu'est-ce que vous fixez comme objectif ? Forcément, vous avez déjà des objectifs chiffrés, c'est sûr.
L'objectif, c'est de pouvoir pousser ces entreprises à fort potentiel et qui sont dans des domaines à fort potentiel,
pourquoi
à devenir de grandes entreprises, à peser, que les femmes pèsent plus dans le tissu économique des pays.
À qui vous pensez, à quoi vous pensez ?
D'autres femmes. Toutes les femmes que j'ai rencontrées qui sont dans les PME-PMI, qui ne sont même pas conscientes
donnez-nous
de leur
des
potentiel.
Exemples.
Je ne souhaiterais pas, je reste toujours bancaire, mais il y a des femmes qui évoluent dans des secteurs clés. Dans l'agriculture.
La transformation de la noix de cajou, par exemple ?
Je veux parler de l'agriculture qui est la colonne vertébrale de nos économies. Elles produisent en petite quantité, elles n'ont pas accès aux terres, elles n'ont pas les équipements, elles sont dans une agriculture de subsistance. Et ces femmes, il faudrait peut-être leur ouvrir l'horizon Moi qui ai traversé l'Afrique, je sais très bien les besoins que l'Afrique a. La Banque africaine de développement a fait de nourrir l'Afrique un de ses piliers, de ses 5 priorités. Je ne leur promets pas de les emmener en Chine, d'exporter aux États-Unis. Il y a un marché qui est là. Il faudrait qu'elles aillent dans la transformation, dans la valeur ajoutée. Moi, ce dont je veux qu'on parle, c'est de l'autonomisation des femmes, mais ma définition de l'autonomisation, c'est le contrôle par de plus en plus de femmes, le contrôle du capital et de la formation des revenus. Je veux que les femmes pèsent. Maintenant,
même
toutes
quand
les
on n'est
initiatives,
pas propriétaire de la terre,
peut-être qu'il faudrait des mesures incitatives. Il faudrait un écosystème. Donc, pour moi, je veux être à la croisée entre la coordination entre toutes les possibilités d'investissement qui existent. Rajouter à cela du renforcement de capacité pour pouvoir passer
ça,
à une étape supérieure.
C'est le grand jargon des bailleurs de fonds. Hein, ça.
Oui, mais peut-être qu'on n'utilise pas assez ce qui est disponible. Alors là où peut-être je pourrais aider, c'est que je sais ce qui est disponible et je sais comment diriger ce renforcement de capacité, la gouvernance, et leur dire il n'y a pas que les banques, il y a les banques, il y a les fonds d'investissement, il y a des fondations privées, il y a des fonds de garantie. Je vais être à la croisée des chemins et coordonner tout cela pour les femmes. Si je ne crée que 10 championnes nationales et régionales, puisque je ne peux pas me limiter à un pays, et qu'elles ont on s'en sert pour un effet de levier et qu'elles en tirent d'autres, nous pèserons, nous femmes, dans la discussion de la formation du PIB.
Et dans le secteur de l'agriculture, vous pensez à d'autres secteurs aussi?
Absolument.
Pour fabriquer des championnes pour le,
oui,
continent.
Il y a le secteur de l'agriculture, il y a l'industrie, la transformation, il y a l'énergie, il y a le BTP, il y a certains services qui sont clés.
Il va falloir fouiller quand même pour trouver des femmes, non?
Non, après ce que j'ai vu, j'étais sur le terrain en Afrique. Moi, je n'étais pas dans un bureau, j'étais sur le terrain en Afrique. Lorsque vous avez, bien que j'avais 33 pays, nous opérions une licence bancaire dans 31 de ces pays. J'étais à la tête de 33 banques. Je supervisais les directeurs généraux de 33 banques. Ça vous donne un regard transversal sur ce qui se passe dans la société.
Vous me dites, il y a des championnes qui s'ignorent dans le bâtiment à l'heure actuelle aujourd'hui sur le continent africain.
Alors, vous avez même choisi le bâtiment. Et là, je vous dis oui. Et en disant oui, je crois qu'il y a une dame au moins qui va se reconnaître aujourd'hui en entendant ma voix.
Milliards de voisins, c'est sur RFI.
Evelyne Tal, vous parlez beaucoup des femmes, forcément, puisque c'est un peu à elles que vous allez destiner tous vos efforts dans les années à venir. En France, il y a beaucoup de chercheuses féministes qui établissent que ce qui est déterminant pour la réussite d'une femme, c'est de savoir choisir son mari. Si on prend l'exemple de Bill Clinton, Barack Obama, est-ce que il y a des hommes inspirant pour les femmes, des hommes un peu pygmalions, également en Afrique ou pas? Vous en avez croisé?
Il y en a, oui, j'en ai croisé.
Vous n'en avez pas eu, vous, de mentor?
Je pense qu'il ne s'agit pas de ma vie à moi,
oui.
Mais il y en a en Afrique. Et moi, je rappelle toujours que même si je n'ai pas eu de mentor, toutes ces décisions étaient signées par des hommes qui prenaient des risques. Je leur reconnaîtrai toujours cela. Le conseil d'administration était complètement masculin lorsque mon CV a été présenté pour mon premier poste au Mali. Et ils ont pris ce risque. C'était un risque pour eux. Pour moi, je savais ce que je faisais.
Est-ce qu'il y a une grande personnalité sur le continent africain qui croit dans les femmes africaines?
Absolument. Absolument. Moi, je prends aujourd'hui dans la gouvernance publique, vous voyez de plus en plus une action bien déterminée pour que les femmes soient au plus haut niveau de responsabilité dans les sphères gouvernementales et au Parlement. Dans le secteur privé également, moi j'ai vu des hommes, je veux, le président de la Banque africaine de développement était absolument clair sur ces 5 priorités. Moi-même, j'ai travaillé dans un conseil d'administration avec une personne que je vais nommer, qui est l'ancien président de Tanzanie, le président Paka, et qui m'a coopté dans un autre conseil d'administration après m'avoir observé travailler dans le comité d'audit. Donc je dis que oui, mais en réalité, nous parlons de quoi ? Encore une fois, pour moi, le gap est tellement grand. Nous avons tellement de retard et tellement de potentiel en Afrique qu'on ne peut pas se payer le luxe de se passer des femmes capables. Donc je pense qu'il y a des personnalités inspirantes, des personnalités qui poussent, mais j'inviterai toute la société à pousser, j'inviterai surtout les femmes, à croire en elles et à se dire « j'ai de l'ambition ». Ce n'est pas facile. Mon discours n'est pas que tout a été facile. Il y a eu des larmes, il y a eu des sacrifices, j'en ai parlé. Mais je veux dire, il s'agit de quoi ? De pouvoir prendre en main la destinée de notre continent.
Evelyne Tall, est-ce que parfois vous nourrissez des regrets ?
Non, j'ai pas de regrets. Lorsque je parle de sacrifices de mes filles, je suis absolument sûre qu'ayant vécu à côté d'une personne comme moi, elles ont pu développer d'autres capacités qu'elles n'auraient pas pu développer si elles avaient été dans une autre sorte de cocon. Non, je n'ai pas des regrets. Ce que je fais quand même, c'est que je tire leçon de mes erreurs. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas tout fait juste. J'aime pouvoir prendre du recul et dire « ça, c'était pas bien ». Pourquoi c'était pas bien ? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ?
Ça, c'est votre côté perfectionniste.
Certainement. Certainement. Oui.
Et donc, sur les regrets, je veux dire, au sens plus philosophique du terme.
Je dis toujours non. Encore une fois, ça ne veut pas dire que j'évacue les imperfections. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, on s'améliore tous les jours, j'apprends tous les jours, mais je ne m'attarde pas trop sur des choses qui sont arrivées, qui ont été difficiles. Il faut en tirer leçon, il faut regarder droit devant soi et il faut avancer.
Merci beaucoup Evelyne Tall d'être passée chez les 7 milliards de voisins. Certaines auront envie de réécouter à mon avis vos propos et votre parcours, votre histoire sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Merci beaucoup.
Merci Evelyne de m'avoir invitée.
Dans quelques instants, rencontre toujours à Marrakech avec une adolescente américaine aux racines africaines, Zuriel Oduwele. Elle réalise des documentaires, je vous en parlais au début de l'émission Evelyne, sur l'éducation des filles en Afrique depuis l'âge de 9 ans. Et elle a rencontré peut-être autant de chefs d'État et de premiers ministres que vous dans votre carrière. Zuriel a aujourd'hui 15 ans. C'est une adolescente presque comme les autres qui aime Where is the Love, Black Eyed Peas, qu'on écoute. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all.
People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love?
It just ain't the same. Always new change, new days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach?
Oduwale.
Bonjour, je m'appelle Zuriel Oduwale, je suis documentariste et je suis une activiste en faveur de l'éducation des filles. Et j'ai 15 ans.
Avec cet engagement, tu t'es retrouvée à rencontrer des chefs d'État et des premiers ministres. Comment ça s'est passé ?
How did it go?
La plupart du temps, ça se passe plutôt très bien. Jusqu'à présent, j'ai rencontré à peu près 24 chefs d'État. J'en ai rencontré quelques-uns au Nigeria, Soudan et au Kenya, et quelques-uns en Europe, notamment au Malte et en Croatie. La plupart du temps, on parle du sujet qui me tient à cœur, à savoir l'éducation des filles, mais parfois la situation peut différer d'un pays à l'autre. Par exemple, au Soudan, les filles sont obligées de se marier très jeunes, donc sont victimes de mariage forcé. Donc on a parlé de ce sujet en particulier en disant que les filles devraient plutôt aller à l'école. Mais la plupart du temps, mes rendez-vous se passent plutôt bien.
Tu parles comme si tu étais déjà complètement une adulte dans le monde adulte.
Mais vous savez, je n'ai que 15 ans.
Comment en es-tu arrivée à devenir, comme tu le dis toi-même, une activiste des droits pour l'éducation des filles ?
Donc j'étais d'abord documentariste et j'ai fait mon premier documentaire à l'âge de 9 ans. Et j'ai décidé de le faire sur la révolution des armes. Donc quand je suis allée au Ghana pour ce documentaire, j'ai vu beaucoup de jeunes filles qui étaient plutôt dans la rue au lieu d'être à l'école. Et c'est ce qui m'a encouragée à justement me lancer dans ce projet en faveur de l'éducation des filles. Ce que je fais, c'est qu'en général, je parle avec les enfants à l'école et je leur explique pourquoi il est important de rester à l'école et avoir une bonne éducation. J'ai parlé à près de 24 000 enfants dans 12 pays, notamment au Nigeria,
Mauritius,
l'île Maurice,
Kenya, and South Africa as well.
Et en Afrique du Sud, bien sûr.
And so that's also why
et c'est pourquoi c'est important, justement, de parler des politiques à mettre en œuvre dans ces pays avec les chefs d'État en faveur de l'éducation des filles.
Oui. Ta mère est de l'île Maurice, un pays qui a énormément progressé ces dernières années sur la scolarisation pour tous. Ton papa vient du Nigeria. Quelle a été la sensibilisation par tes parents sur le problème de la scolarisation des petites filles ?
À vrai dire, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est moi-même qui l'ai vu sur le terrain, notamment quand j'étais au Ghana pour mon documentaire.
Tu as grandi en Californie ? Est-ce que tu aurais eu le même destin si tu avais grandi dans un lycée de Lagos ou de Port-Louis à l'île Maurice ?
Donc oui, j'ai bien grandi en Californie, mais j'ai aussi passé du temps aussi bien à Lagos qu'à l'île Maurice quelques mois par an.
Tu parles beaucoup des enfants que tu rencontres en essayant de leur dire de rester à l'école le plus tard possible. Mais l'éducation des filles, à ton avis, elle est entre les mains des États, de la société, des familles ?
Je pense que les trois jouent un rôle important en matière de l'éducation des filles. La famille et la société sont des facteurs qui encouragent en fait les enfants à aller à l'école et les filles à aller à l'école. Et en ce qui concerne les États, c'est eux qui mettent en place des politiques qui permettent justement aux familles d'envoyer les filles à l'école.
Mais avec ton expérience aujourd'hui, quelles seraient les solutions pour en finir avec des filles qui restent à la maison ?
Ça dépend parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les filles ne vont pas à l'école. Dans certains pays comme le Soudan, par exemple, c'est un problème culturel. La plupart des filles peuvent être victimes de mariages forcés au lieu de rester à l'école. Il y a parfois aussi des raisons économiques et parfois c'est les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leur fille à l'école. D'après mon expérience, en ce qui concerne les raisons culturelles, c'est mieux de montrer des exemples de filles à l'école à ces pays qui font une vraie différence dans la société parce qu'elles ont eu accès à l'école. En ce qui concerne les raisons économiques, quand je vais parler aux enfants, je parle aussi à leurs parents et je leur explique des différents moyens qu'il y a pour envoyer leurs enfants à l'école s'ils n'ont pas les revenus qu'il faut. Je leur parle notamment de la possibilité des mécénats d'entreprises, également des bourses et aussi des bourses gouvernementales.
Tu as dit que pour les petites filles, ce qui était important, c'était d'avoir des modèles. Et pour toi, qui est ton modèle?
Pour moi, c'est ma maman. Elle est géniale et elle travaille à plein temps. Et elle a le temps de s'occuper de moi qui fais l'école à la maison ainsi que mes trois cadets. Et en même temps, elle me soutient et elle m'aide dans toutes mes activités en faveur de l'éducation des filles.
Tes projets à plus long terme?
Pour l'instant, je me concentre sur mon projet en faveur de l'éducation des filles. C'est vraiment un projet à long terme pour moi, donc pour l'instant, c'est ce que je fais et c'est ce que je continuerai à faire. Et en ce qui concerne mes documentaires, j'essaye toujours de raconter des histoires positives.
Merci beaucoup, Zuriel.
Je vous en prie.
Les voisins et les voisines, ne manquez pas sur notre page Facebook les photos, la vidéo de Zuriel, 15 ans, engagé pour l'éducation des filles depuis l'âge de 9 ans. Merci à toute l'équipe, Jérémy Bessé à la réalisation de cette émission, Cécile Lavolo à la préparation, Sina Toussaka aux vidéos. Et demain, 7 milliards de voisins, nous achèverons cette semaine très africaine, mais cette fois-ci nous serons à Paris avec les JPAG, jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Ils sont en train de monter leurs entreprises, ils parlent de leurs difficultés de façon très cash avec le coach Didier Akouété. À demain les voisins.